Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Vous nous avez rejoint pour le journal des idées. Et aujourd'hui Jacques, vous faites l'éloge de quelques petites qualités simples qui nous rendent la vie meilleure en société.
Et oui, dans un beau livre publié sous le titre « Les vertus communes », Carlo Ossola rendait hommage aux vertus civiques de la vie ordinaire en puisant aux traditions littéraires et morales qui les ont illustrées. Affabilité, discrétion, loyauté, gratitude, urbanité, générosité. Loin des vertus héroïques ou cardinales, ces vertus du quotidien nous préservent de la vanité, de l'orgueil et des dégâts de l'arrogance. Elles rendent la vie aimable en société et nous enjoignent de ne pas peser sur la terre. Philosophie Magazine publie un dossier sur l'admiration, un sentiment noble qui élève chacun et contrevient à sa manière à la concurrence de tous contre tous. Comme le rappelle Michel Elchaninoff, Descartes en faisait la première des passions de l'âme, une subite surprise qui rompt le rapport instrumental au monde où nous recherchons sans cesse notre intérêt. Ceux qui n'ont aucune inclination naturelle à cette passion sont ordinairement fort ignorants, ajoutait le philosophe, car l'admiration va au-delà de la surprise, elle s'inscrit dans la mémoire et elle alimente le souvenir. Sans fidélité, l'admiration n'est que de l'émerveillement. Elle incite à en savoir plus, à tenter de comprendre. Du point de vue de la connaissance, comme celui de l'éthique, l'admiration nous pousse vers le haut. Pessimiste congénital, Émile Cioran, malgré son scepticisme exacerbé, s'est livré à ce qu'il a lui-même désigné comme des exercices d'admiration, des portraits fouillés où l'on croise Valéry, Michaud, Beckett, Maria Zambrano ou Borges. Pour éviter que l'admiration ne verse dans l'emprise, le mimétisme ou l'envie, ou encore les effets de la propagande, Michel Elchaninoff suggère de cultiver la part d'innocence, de désintéressement, de déprise qui est à l'œuvre dès l'origine infantile de ce sentiment, sans pour autant succomber au mirage du marché de l'admiration, aujourd'hui saturé, celui du criard et du clinquant qui s'exhibe dans la publicité, la vie ostentatoire des très riches. Dans la distinction, Pierre Bourdieu nous avait vacciné contre la version discriminante de la contemplation des œuvres d'art, désignée à l'admiration de ceux qui ont appris à reconnaître les signes de l'admirable et qui tiennent ainsi à distance le non-initié. L'admiration, selon lui, fait partie de cet appareil par lequel s'annonce toujours le caractère sacré, séparé et séparant de la culture légitime. Dans un autre genre de mise en garde, Fernando Pessoa s'insurgeait contre l'assimilation convenue du paysage à un état d'âme. Il raconte dans le livre de l'intranquillité qu'il vient d'admirer à Lisbonne la vaste étendue de la ville sous la lumière universelle du soleil depuis la terrasse de San Pedro de Alcántara. Cantara et précise qu'il est parvenu alors à se dépouiller de sa personne physique pour se retrouver devant la vérité de l'extérieur absolu. Jean-Christophe Bailly, qui rappelle ce moment, souligne l'effet de seuil ainsi marqué. À l'intimité, alors, le dehors est versé et il l'est, pour ainsi dire, sans reste. Par-delà ce seuil, qui est soutenu mais qui n'est pas franchi, l'instant se transforme en souvenir et rien ne nous est plus intime que ce qui en nous se souvient. C'est dans sa contribution de l'écrivain à la dernière livraison de la revue Sensibilité, publiée par Anna Moza, qui porte sur les paradoxes de l'intime, avec le secret ou la discrétion. L'intime n'est pas vraiment au goût du jour, qui s'affiche au contraire dans l'étalage de soi, voire l'obscénité. Pour Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, la vie privée est désormais une norme sociale anachronique. Reste que l'intime appelle le partage, il se construit en relation, souligne Clémentine Vidal-Naquet, qui a coordonné l'ensemble avec Arlette Farge. En tant qu'expérience sociale et affective du lien, de la familiarité, de la proximité ou de la distance, il est un objet pour les sciences sociales. Michael Fussell évoque la politisation de l'intime dans les luttes féministes et les revendications des minorités sexuelles. Pour accéder à une forme de tolérance sociale, il faut d'abord que l'intime paraisse sur la scène. De même, le combat contre le harcèlement et les violences sexuelles suppose de mettre en lumière ce qui n'appartient pas à un intime choisi, mais à une intimité contrainte. Une différence entre l'intime et une intériorité muette qui se manifeste exemplairement dans le cri de révolte, de douleur ou de de plaisir. Pour Jacques Lacan, l'intime constitue le rapport à l'autre dans le langage. Le récit de soi, si répandu dans la littérature, en est le meilleur indice. Comme l'a montré Paul Ricoeur, en quête de narrateur, le sujet élabore des récits destinés à assurer à sa propre vie une cohérence que le seul fait de la vivre ne lui garantit pas.